Chapitre 4. On peut toujours faire momentanément abstraction de la partie systématique que tout grand artiste volontaire introduit fatalement dans toutes ses œuvres. Il reste, dans ce cas, à chercher et à vérifier par quelles qualités propres, personnelles, il se distingue des autres. Un artiste, un homme vraiment digne de ce grand nom, doit posséder quelque chose d'essentiel, sui generis, par la grâce de quoi il est lui et non autre. À ce point de vue, les artistes peuvent être comparés à des saveurs variées, et le répertoire des métaphores humaines n'est pas assez vaste pour fournir la définition approximative de tous les artistes connus et de tous les artistes possibles. Nous avons déjà, je crois, noté deux hommes dans Richard Wagner, l'homme d'ordre et l'homme passionné. C'est de l'homme passionné, de l'homme de sentiment qu'il est ici question. Dans le moindre de ses morceaux, il inscrit si ardemment sa personnalité que cette recherche de sa qualité principale ne serait pas très difficile à faire. Dès le principe, une considération m'avait vivement frappé. C'est que dans la partie voluptueuse et orgiaque de l'œuvre de Tannhäuser, l'artiste avait mis autant de force, développé autant d'énergie que dans la peinture de la mysticité qui caractérise l'ouverture de Lohengrin. Même ambition dans l'une que dans l'autre, même escalade titanique, et aussi même raffinement et même subtilité. Ce qui me paraît donc avant tout marquer d'une manière inoubliable la musique de ce maître, c'est l'intensité nerveuse, la violence de la passion et dans la volonté. Cette musique-là exprime avec la voix la plus suave ou la plus stridente tout ce qu'il y a de plus caché dans le cœur de l'homme. Une ambition idéale préside, il est vrai, à toutes ses compositions. Mais si, par le choix de ses sujets et sa méthode dramatique, Wagner se rapproche de l'Antiquité par l'énergie passionnée de son expression, il est actuellement le représentant le plus vrai de la nature moderne. Et toutes les sciences, tous les efforts, toutes les combinaisons de ce riche esprit ne sont, à vrai dire, que les serviteurs très humbles et très zélés de cette irrésistible passion. Il en résulte, dans quelque sujet qu'il traite, une solennité d'accent superlative. Par cette passion, il ajoute à quelque chose, je ne sais quoi, de surhumain. Par cette passion, il comprend tout et fait tout comprendre. Tout ce qu'impliquent les mots, volonté, désir, concentration, intensité nerveuse, explosion, se sent et se fait deviner dans ses œuvres. Je ne crois pas me faire d'illusions, ni tromper personne en affirmant que je vois là les principales caractéristiques du phénomène que nous appelons « génie ». Ou du moins, que dans l'analyse de tout ce que nous avons jusqu'ici légitimement appelé génie, on retrouve lesdites caractéristiques. En matière d'art, j'avoue que je ne hais pas l'outrance. La modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique vigoureuse. J'aime ces excès de santé, ces débordements de volonté qui s'inscrivent dans les œuvres comme le bitume enflammé dans le sol d'un volcan et qui, dans la vie ordinaire, marquent souvent la phrase pleine de délices, succédant à une grande crise morale ou physique. Quant à la réforme que le maître veut introduire dans l'application de la musique au drame, qu'en arrivera-t-il? Là-dessus, il est impossible de rien prophétiser de précis. D'une manière vague et générale, on peut dire, avec le psaumiste, que, tôt ou tard, ceux qui ont été abaissés seront élevés, que ceux qui ont été élevés seront humiliés, mais rien de plus que ce qui est également applicable au train connu de toutes les affaires humaines. Nous avons vu bien des choses déclarées jadis absurdes qui sont devenues plus tard les modèles adoptés par la foule. Tout le public actuel se souvient de l'énergique résistance où se heurtent, dans le commencement, les drames de Victor Hugo et les peintures d'Eugène Delacroix. D'ailleurs, nous avons déjà fait observer que la querelle qui divise maintenant le public était une querelle oubliée et soudainement ravivée que Wagner lui-même avait trouvé dans le passé les premiers éléments de la base pour asseoir son idéal. Ce qui est bien certain, c'est que sa doctrine est faite pour railler tous les gens d'esprit fatigués depuis longtemps des erreurs de l'opéra, et il n'est pas étonnant que les hommes de lettres, en particulier, se soient montrés sympathiques pour un musicien qui se fait gloire d'être poète et dramaturge. De même, les écrivains du XVIIIe avaient acclamé les ouvrages de Gluck, et je ne puis m'empêcher de voir que les personnes qui manifestent le plus de répulsion pour les ouvrages de Wagner montrent aussi une antipathie décidée à l'égard de son précurseur. Enfin, le succès ou l'insuccès de Tannhäuser ne peut absolument rien prouver, ni même déterminer une quantité quelconque de chances favorables ou défavorables dans l'avenir. Tannhäuser, en supposant qu'il fût un ouvrage détestable, aurait pu monter au nu. En le supposant parfait, il pourrait révolter. La question dans le fait, la question de la réformation de l'opéra n'est pas vidée, et la bataille continuera. Apaisée, elle recommencera. J'entends dire récemment que si Wagner obtenait par son drame un éclatant succès, ce serait un accident purement individuel, et que sa méthode n'aurait aucune influence ultérieure sur les destinées et les transformations du drame lyrique. Je me crois autorisé par l'étude du passé, c'est-à-dire de l'éternel, à préjuger l'absolu contraire, à savoir qu'un échec complet ne détruit en aucune façon la possibilité de tentatives nouvelles dans le même sens, et que dans un avenir très rapproché, on pourrait bien voir non pas seulement des auteurs nouveaux, mais même des hommes anciennement accrédités, profiter dans une mesure quelconque des idées émises par Wagner, et passer heureusement à travers la brèche ouverte par lui. Dans quelle histoire a-t-on jamais lu que les grandes causes se perdaient en une seule partie? Le 18 mars 1861.